Vous êtes sur RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez la première radio de France. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin le commissaire européen aux affaires européennes, Pierre Moscovici.
Et merci beaucoup d'être sur RTL ce matin. Bonjour Pierre Moscovici, pardon. La France revoit son budget en catastrophe et du coup sort des clous européens pour financer son plan d'urgence face à la crise. Bruxelles va sanctionner le gouvernement français.
Non, il n'est pas question de ça. Arrêtons de toujours raisonner sanctions quand on pense Bruxelles. C'est la meilleure façon de faire détester l'Europe et c'est vraiment pas la façon dont je conçois les choses. Un dépassement au-delà de 3%, puisque c'est le seuil magique, qui d'ailleurs est une limite, qui ne doit pas être une cible. La France sera, en 2019, le seul pays à être au-dessus de 3%. Il faut le savoir. Ce seuil-là peut être dépassé. Ce sont les règles qu'ils disent, à condition que ce soit de façon limitée, de façon temporaire, de façon exceptionnelle. Pardon d'être technique, mais si un pays, par exemple, passait au-dessus de 3,5% sur un an, alors il pourrait y avoir ce qu'on appelle une procédure de déficit excessif. Ça n'est pas le cas de la France.
3,2% a dit hier Édouard Philippe.
Donc, et si un pays passait au-dessus de 3% deux années consécutives, là aussi, il pourrait y avoir une procédure de déficit excessif. Si vous passez exceptionnellement sur un an au-dessus de 3% sans être au-dessus de 3,5%, alors il n'y a pas de conséquences procédurales. Cela dit, il faut quand même être conscient que la dette française est une dette élevée maintenant qu'elle va tangenter les 100%.
100% de dette française.
J'ai pas le chiffre précis, mais logiquement, on était à 98,7 avec un déficit qui était plus bas, à 2,8. La dette publique devrait continuer à augmenter, fût-ce très légèrement. Et donc la France a intérêt, dans la continuité, ensuite à redescendre en dessous de 3%. Ce qui devrait être fait, je le dis, en 2020, pourquoi ? Et c'est une autre raison pour laquelle il n'est pas question de sanctions, parce que ces 3,2% incluent une opération temporaire, la transformation du CICE en baisse de charges sociales de 0,9 points, donc on devrait être bien en dessous de 3% en 2020.
Ce qui est contesté dans Jeudi pour les auditeurs, effectivement, personne n'avait demandé au gouvernement français de faire 20 milliards, plus 20 milliards de CICE l'année prochaine, mais elle le fait, vous ne l'aviez pas demandé. Les Européens, ni les entreprises.
Non, mais je ne discute pas. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est donc qu'il n'y aura pas du tout de sanctions. En même temps, nous continuons à demander à la France d'être sérieuse pour l'avenir et de limiter autant que possible
Il
ce déficit.
Pierre Moscovici, c'est une sortie de route. Et quand même, même si la dette italienne, je crois, est à 137%, Rome a de quoi être furieux. D'ailleurs, Salvini, je vous le cite, « Si les règles de Bruxelles sont les mêmes pour tous en matière de déficit, la Commission européenne devrait ouvrir une procédure à l'encontre de la France. » Il a tort.
Il y a une première idée reçue qui est que nous sommes les grands méchants et donc nous sanctionnons tout pays qui dépasse. Ça n'est pas le cas.
Bruxelles. C'est une idée reçue,
la Commission européenne. Je viens de le montrer sur la France. Ouais. Donc nous n'allons pas être du tout dans une logique de sanction, mais nous serons dans une logique de dialogue sérieux, exigeant avec le gouvernement français. Deuxième idée reçue, il y a deux poids, deux mesures. Il y a la France et il y a les autres. Cette idée est fausse également. Et je veux expliquer pourquoi l'approche de l'Italie n'est pas la même que celle de la France. Parce qu'il y a deux différences majeures. S'agissant de la France, vous avez une urgence sociale, vous avez des mesures exceptionnelles sur un an avec un dépassement temporaire. C'est autorisé par les règles. S'agissant de l'Italie, il y a une situation qui est toute différente puisque vous avez une politique de relance sur trois ans dans une situation qui est...
À laquelle vous ne croyez pas ?
À laquelle... j'ai pas à croire ou pas croire. Je suis pas là pour...
Vous jugez de la crédibilité des budgets et des investissements.
Non.
Quand l'Italie veut faire un revenu universel qui est une fortune,
je peux avoir mon sentiment. Je pense notamment qu'une bonne politique doit être d'abord assise sur l'investissement et que s'agissant de l'Italie, le vrai problème du pays, c'est sa faible productivité et sa faible compétitivité. Mais surtout, je suis le gardien, en quelque sorte, des équilibres budgétaires. Et donc, ce qui me préoccupe, et c'est la deuxième différence avec la France, c'est que le niveau de dette français est certes trop élevé, il tangente les
100%,
mais le niveau de dette italien est bien supérieur, il est à 130%. Donc, d'un côté, un pays qui dépasse temporairement avec une dette qui est trop élevée, mais qui est encore soutenable. De l'autre côté, un pays qui veut faire une politique de relance avec une dette qui est très élevée. Mais je veux ici vous faire une annonce. Je suis en train de travailler ardemment, presque jour et nuit, pied à pied, pour que l'Italie ne soit pas non plus sanctionnée. Je pense que ce serait une mauvaise chose.
Elle échappera à une procédure de déficit excessif.
Je pense que l'Italie est un grand pays de la zone euro, que l'Italie a sa place au cœur de la zone euro, et donc je suis en contact permanent avec M. Tria, le ministre des Finances, avec M. Conte, le président du Conseil, encore hier soir, et ce sera à nouveau ce matin. Nous travaillons d'arrache-pied dans un dialogue constructif pour faire en sorte que l'Italie puisse mener la politique qu'elle veut. Après tout, c'est pas à moi de discuter de la légitimité du gouvernement italien de sa politique, mais qu'elle le fasse en respectant les règles. Et j'ai bon espoir qu'on y arrive. On y travaille, et on y travaille positivement. Parce que, en effet, non seulement je n'aime pas le deux poids deux mesures, mais je n'aime pas l'injustice.
Il n'y a pas d'indulgence à l'égard de Paris par rapport à Rome.
Ni indulgence à l'égard de Paris, ni injustice à l'égard de Rome.
Et vous vous laissez entrevoir ce matin qu'il n'y aura pas de sanctions à l'encontre de l'Italie, vous y travaillez. Il y a des différences, vous l'avez dit, entre Rome et Paris. Il y a quand même quelque chose qui rapproche nos deux pays, c'est ce sentiment anti-européen. Franchement, Pierre Moscovici, est-ce que cette indulgence, cette magnanimité à l'égard de Paris et de Rome, finalement, ce matin, est-ce que ça n'est pas lié au fait que agiter le chiffon rouge européen aujourd'hui, vous savez que c'est de mettre de l'huile sur le feu, sur ce sentiment anti-européen?
D'abord, on peut discuter du sentiment européen, parce que quand on interroge les Français, notamment sur leur adhésion à l'euro ou à l'idée européenne, elle n'a jamais été aussi élevée, paradoxalement, depuis 1983.
Pour ça l'euro, n'est pas sans contradiction,
pas
mais il y a un
sentiment anti-européen. C'est pas sans contradiction, mais c'est pas du tout temporaire ou circonstanciel, l'attitude qu'est la mienne. Elle est constante. J'ai toujours pensé que l'Europe devait être un instrument qui permette de réaliser des réformes ensemble, mais qu'elle ne devait pas être punitive. Depuis 4 ans que je suis commissaire chargé des affaires économiques et financières, on n'a sanctionné personne. J'en suis plutôt content. Et dans le même temps, les pays ont réduit leur déficit, parce qu'il faut savoir quand même que la moyenne du déficit dans la zone euro n'est pas de 3%, mais de 0,7%. Donc il y a moyen d'inciter sans punir. Et c'est comme ça que je vois l'Europe, comme une instance qui rassemble et qui tire de l'avant, et pas du tout comme une punition pour tel ou tel.
À ce titre-là, quand même, est-ce que ça n'est pas un échec? Richard Ferrand, de mémoire, disait dans le journal du dimanche, il y a quelques jours, le ressenti en politique, ça devient la vérité. Or, le ressenti de beaucoup de nos compatriotes européens, c'est que précisément Bruxelles est une instance punitive. Est-ce qu'il n'y a pas, de ce point de vue-là, un échec?
D'abord, une chose que je veux dire, c'est que l'Europe, c'est pas Bruxelles. L'Europe, c'est tout le monde. Et si on se mettait à dire un peu de bien de l'Europe dans les capitales nationales, ça irait un peu mieux. Mais je vais vous donner deux exemples qui vont démentir ce que vous dites. Premièrement, l'Europe, la Commission européenne, a mis en place, aussitôt arrivée aux responsabilités en 2014, un plan d'investissement de 315 milliards d'euros qui génère des investissements et des emplois sur tous nos territoires. Et la France est la première bénéficiaire de ce plan dit Juncker. Deuxième exemple, on parlait tout à l'heure de la taxe dite GAFA. Moi, j'aime pas parler de taxe GAFA, mais de taxe sur le numérique, c'est la Commission européenne et je suis commissaire de la fiscalité qui a proposé cette taxe. D'ailleurs, je veux le dire, elle est toujours sur la table. Je ne renonce pas.
Vous parlez de la taxe GAFA.
La taxe sur le numérique, je ne l'appelle pas taxe GAFA parce que justement, elle ne concerne pas que les GAFA, elle ne concerne pas que 4 entreprises, elle ne concerne pas
L'Europe 10, n'a pas réussi 180. À se mettre d'accord. Du coup, Bruno Le Maire, qui voulait absolument un accord européen, c'était important pour lui, il a annoncé hier que la France irait toute seule.
Qui sont les Européens? Les Européens, ce sont les États membres. Oui. C'est Paris, c'est Berlin, c'est Rome.
Et ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord.
Bruno Le Maire le dit lui-même, et nous sommes entièrement d'accord là-dessus, cette taxe européenne, elle est toujours sur la table. Et on doit faire le maximum d'ici au mois de mars pour y arriver.
Il s'épuisait, nous disait-il, mois après mois, à avoir un consensus
on
européen.
Est pas, on est jamais épuisé quand on croit à l'Europe. Et donc, il faut remettre sur le métier 100 fois. Je lui dirai demain, puisqu'il vient à Bruxelles, et d'ailleurs, il est d'accord.
Plus fondamentalement, comment fait-on pour combiner la redistribution qui est nécessaire, des richesses, et les règles de Bruxelles? Est-ce qu'on peut réformer un pays, réduire les inégalités et en même temps diminuer le déficit comme l'impose Bruxelles?
Pardonnez-moi, mais j'allais dire que c'est presque encore plus simple quand on redistribue. Parce que vous redistribuez, d'un côté vous distribuez, c'est ce que Emmanuel Macron a fait, et il a eu raison, parce qu'il fallait répondre à cette urgence.
Il ne taxe pas les hauts revenus. Attendez, est-ce que vous le regrettez d'ailleurs?
J'y viens, c'était l'autre élément de ma phrase. Donc, d'une part, il distribue, et il fallait répondre à cette urgence sociale, c'était indispensable. Il y avait un feu qui couvait, et ce feu était le feu du ras-le-bol fiscal que j'avais moi-même soulevé en 2013, et il fallait y répondre. Il n'est pas possible que le consentement à l'impôt soit aussi menacé qu'aujourd'hui. Et puis ensuite, il y a la redistribution. La redistribution, qu'est-ce que c'est? C'est justement la réduction des inégalités. Et quand vous redistribuez, vous allez aussi prélever. Et vous allez peut-être, à un moment donné, prélever sur les plus riches. Et c'est la raison pour laquelle...
Il ne le fait pas dans son plan d'urgence sociale. Est-ce qu'il a tort, Pierre Moscovici? Est-ce que là, il y a un élément d'injustice que vous ressentez comme tel?
Écoutez,
vous, l'ancien socialiste.
Je ne suis pas un ancien socialiste, je suis toujours social-démocrate. Et le social-démocrate que je suis a appartenu à un gouvernement, et j'étais ministre des Finances, qui n'a pas supprimé l'ISF. Et je pense que l'ISF n'était pas un impôt qui en soi était formidable, mais qui avait un mérite, c'est-à-dire qu'il assurait le consentement à l'impôt. Si vous êtes couches moyennes ou plus populaires ou moins favorisées, vous pouvez payer votre impôt si vous pensez que les plus riches le payent aussi. C'est la raison pour laquelle je pense que cette idée de la redistribution, je comprends qu'Emmanuel Macron ait voulu supprimer l'ISF, je comprends qu'il n'ait pas voulu le rétablir maintenant, mais dans le débat...
Mais du coup, il aurait dû faire quelque chose quand même au niveau des hauts revenus.
Il ne faut pas bricoler.
Aller jusqu'au bout de la santé.
Il ne faut pas bricoler.
Et bien là, c'est bricolé.
Les réponses au pouvoir d'achat peuvent être des réponses d'urgence. La réforme fiscale ne peut pas être une réforme d'urgence. Mais ce que je crois, c'est que dans le débat citoyen qui va commencer, il est fondamental qu'on réfléchisse à une profonde réforme fiscale, parce qu'il y a un ras-le-bol des inégalités.
Vous voulez dire les grands débats nationaux qui débouchera éventuellement
sur une réforme fiscale. Et à ce moment-là, il sera encore plus facile de réduire les déficits, parce que vous aurez des recettes à côté des dépenses.
Oui. Justement, le référendum d'initiative citoyenne qui fait un peu consensus, le Premier ministre est d'accord en tout cas pour qu'on en discute. Vous y êtes favorable ou vous dites c'est une concession au populisme en fait ?
Ni l'un ni l'autre, je ne suis pas hostile, mais je crois qu'il faut faire très attention à la façon dont on définit le champ, parce qu'à l'ère des fake news, on va avoir un Brexit ou un Frexit par jour. Et on ne peut pas non plus gouverner un pays à l'émotion. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait en effet des formules de démocratie participative, de démocratie directe, appelons-les si on veut réforme d'initiative citoyenne, mais il faut que ce soit très encadré. Il y a un pays que je connais bien qui est la Suisse. Et la Suisse pratique ce référendum. Et aujourd'hui, le référendum peut être l'occasion de soulever n'importe quelle question, y compris dans le champ social, dans le champ sociétal, par rapport à l'immigration. Et ensuite, le gouvernement s'efforce de manière subtile de le contourner. C'est pas comme ça que je vois la démocratie demain.
Les gilets jaunes, c'est vrai, ont le sentiment d'être propriétaires d'une partie du pouvoir et ils en ont assez que les politiques ne les représentaient pas. C'est une forme d'échec de la politique. Mais on est dans les dernières secondes. À propos d'échec, le Parti Socialiste, vous y êtes toujours ?
J'y suis toujours, mais je n'y vais pas.
Oui. Vous payez votre carte ?
Oui, j'ai payé ma cotisation, bien sûr.
Et comment va-t-il, le PS ?
Écoutez, j'ai peu de nouvelles, et les dernières que j'ai eues n'étaient pas excellentes. Elles m'ont conduit à ne pas souhaiter être sa tête de liste aux européennes, parce que j'aurais souhaité qu'il soit plus clair sur la question. Je lui souhaite bon courage, parce qu'on a besoin d'une formation social-démocrate dans un pays...
Mais vous ne lui dites pas bye-bye ?
Non, je ne lui dis pas bye-bye, je lui dis juste, pour le moment, ça ne me va pas.
Et François Hollande, ça vous va ?
J'aime la façon dont il intervient François Hollande. Dans le débat. Oui, je pense que c'est utile qu'un ancien président de la République intervienne dans le débat. Après, en général, en France, ex-président ne rime pas avec futur président.
C'est dit. Merci Pierre Moscovici d'avoir été ce matin sur RTL.